une enquête dans laquelle il y a, je ne me rappelle plus, mais des mois et des mois de conversations téléphoniques, si on les met toutes les unes à la suite des autres. Je crois que c'est même 15 ans de conversations téléphoniques. Enfin, une enquête avec des moyens incroyables. Tout ça n'a pas permis de savoir qui avait foutu le feu à l'hôtel, n'a pas permis de savoir qui avait dégradé l'écothèque de l'Andra. Les juges, suite à tout ça, ont décidé qu'il n'y avait pas de bande organisée. Malgré ça, et donc pour le seul chef d'inculpation qui reste, c'est-à-dire organisation d'une manifestation non déclarée, ils ont été aussi aujourd'hui condamnés à des peines de prison jusqu'à des peines de prison ferme. Alors ils ont été condamnés à des peines différentes, à des peines de prison allant de 6 mois avec sursis à 12 mois ferme. Et oui, 12 mois ferme pour une manifestation non déclarée. Pour l'instant, le tribunal n'a pas donné ses motivations, ses attendus, je crois qu'on dit ça, et ce qui fait que les avocats attendent d'avoir ça pour décider de faire ou non appel.
Et on laisse la place à Idée Noire. Merci de nous avoir écoutés. Désolé pour le retard.
Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio.
J'en ai marre stressé à chaque contrôle d'identité, avoir la gorge serrée de penser qu'on va m'emmerder, parce qu'il faut que je deal avec l'état civil qu'on m'a imposé.
J'en ai marre stressé, toujours hésiter devant les portes des chiottes, à pas savoir derrière laquelle je vais aller chier, parce qu'on va encore me dire que je me suis trompé de côté.
Tu me trouves trop bizarre juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui a une bite, qui a un vagin, qui a un liquide, qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fier d'être queer.
Madame, monsieur,
un deux, un deux.
Y'a pas de numéro pour me décrire.
Y'a pas de chiffre pour capter l'ampleur du mot queer.
Je veux pas ton numéro,
t'arrives trop tard, je suis sorti du placard. C'est pas...
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est mercredi, il est 20h. Vous êtes en direct avec l'émission Idée Noire, l'émission de l'Union communiste libertaire de Lyon. À tout de suite.
Thank you.
Eh bien donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, en direct avec les militants de l'Union communiste libertaire, donc pour cette émission tous les mercredis de 20h à 21h, qui s'appelle Idées Noires. Voilà, et on commence comme à l'habitude avec quelques annonces. Il y en a pas mal ce soir, je crois.
Ouais, hein. Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer par les annonces. On va en faire pas mal, avec des choses qui tombent cette semaine, il y a d'autres qui tombent plus sur la semaine prochaine, mais on comptait déjà vous en parler. La première démobilisation, elle aura lieu demain. Il y en a deux, il y en a une deuxième sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans l'émission, c'est celle des aides à domicile. Mais demain aussi, du coup, c'est une grève et une manifestation contre Blanquer et ses réformes, donc vous l'avez compris, plutôt du côté du personnel de l'éducation nationale. Je vous lis le petit tract du coup qui a été écrit et diffusé, donc c'est une intersyndicale du coup qui appelle à cette mobilisation, et le rendez-vous c'est demain à 14h, place Guichard. L'école a été soumise à rude épreuve et les personnels ont terminé l'année dans un état de fatigue rarement atteint. La rentrée 2021 est de nouveau marquée par le manque d'anticipation et la confusion de la politique suivie face à la poursuite de la crise sanitaire. La rentrée aurait nécessité la mise en place d'un plan d'urgence et la création massive de postes pour l'éducation dans un contexte qui a rendu plus compliqué la progression des apprentissages, mais au lieu de cela, eh bien, il y a un refus de créer un collectif budgétaire pour la création de postes d'enseignantes et d'enseignants, de CPE, d'AED, d'AESH, de PSYEN et de RASED, de personnel administratif, technique, santé et sociaux dans les écoles, les établissements et les services pour répondre aux besoins. Il y a eu le refus d'annuler les suppressions de postes, la publication de la circulaire de rentrée sans concertation. Encore une fois, le ministre est dans le déni de réalité en refusant de prendre les mesures nécessaires. Cette absence d'anticipation et de prise de décision est irresponsable au regard des enjeux de gestion et de sortie de crise. Il faut un plan d'urgence et notamment une des priorités que les syndicats de l'éducation nationale demandent, c'est par rapport au salaire. Forcément, les annonces du Grenelle ont confirmé qu'il n'y aurait pas de loi de programmation pluriannuelle, un renoncement de plus qui ne répond pas aux attentes salariales des personnels et en exclut la majorité. Au-delà de la deuxième tranche de la prime d'attractivité, très insuffisante pour rattraper les retards, il est bien difficile de voir de quelconque perspective de revalorisation pour les années à venir. Il est urgent d'augmenter les salaires de tous les personnels. Par rapport aux directions d'école, les organisations syndicales qui appellent à la manif demain dénoncent l'ensemble de ces mesures qui tournent le dos à la priorité à l'éducation et cherchent à transformer en profondeur les métiers dans le sens de contraintes supplémentaires sur les personnels. Projet de création d'un emploi fonctionnel de directeur d'école et de hiérarchie intermédiaire, pilotage par l'évaluation. Nous ne pouvons accepter de tels reculs et notamment aussi les revendications par rapport au baccalauréat, car les organisations syndicales qui appellent à la manif de demain refusent la généralisation du contrôle continu et demandent le rétablissement du baccalauréat national pour la session 2022 avec des épreuves nationales, terminales et anonymes. Elles appellent les personnels à se réunir dès à présent, y compris avec les parents d'élèves, pour lister les revendications et organiser les mobilisations nécessaires. Nos organisations soutiendront donc toutes ces actions qui doivent permettre de préparer une action nationale d'ampleur. Et donc du coup, le rendez-vous, c'est demain 23 septembre à 14h, place Guichard. Un autre rassemblement qui aura lieu la semaine prochaine, on vous en parle, parce que ce sera mardi prochain en soirée de 18 à 20h, place Jean Massé. C'est organisé par le collectif Droits des Femmes, dont fait partie la commission antipatriarcale de l'UCL qui s'appelle la FRAP. Donc c'est pour le droit à l'avortement en France, en Europe et dans le monde. Il y aura une démobilisation un peu partout en Europe parce que c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Et donc le rassemblement se fait en solidarité avec l'ensemble des femmes européennes. Nous exigeons que les droits des femmes, la liberté de disposer de son corps, le droit à l'avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits fondamentaux pour l'égalité en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le droit à l'avortement au sein de l'Europe relève de la compétence de chaque État. Donc, il est interdit à Malte, par exemple, sous haute contrainte en Irlande, en Hongrie et en Pologne, vous avez sûrement entendu parler. Le droit à l'avortement, même légalisé, peut ou paraît remis en question par le maintien de la clause de conscience des médecins en Italie, par exemple. L'absence de structures hospitalières adéquates en Grèce, en Bavière, les restrictions de personnel et les suppressions des centres pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières, et ça notamment en France et dans tous les pays, par l'élection de gouvernements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades. Les femmes ont eu des difficultés pour avorter durant la crise sanitaire, augmentation des délais, pas de place dans les blocs opératoires, renvoi dans le privé. Elles ont été soumises à encore plus de violences, ont dû parfois renoncer à avorter, ou pour celles ayant dépassé les délais légaux, tenter, avec ou sans succès, d'aller dans des pays où les délais sont moins stricts. Face à cette éternelle débrouille des femmes, la proposition de loi demandant l'allongement des délais de 2 semaines, la suppression de la double clause de conscience ainsi que la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG a été arrêtée dans son parcours parlementaire par une stratégie délibérée et rétrograde d'obstruction. Et pendant ce temps, les anti-choix et l'extrême droite agissent à grand renfort de communication et de moyens financiers importants en France, en Europe et aux États-Unis. Nous les voyons à l'œuvre en Pologne, en Slovénie, en Hongrie, en Italie, à Malte et dans certains États aux États-Unis. C'est le cas, vous avez sûrement entendu parler de ça, du Texas, qui interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Ils attaquent ou restreignent les droits des femmes, avortement, contraception, font reculer l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Et en France, ils attaquent les locaux de plusieurs plannings familiaux comme à Nantes, Strasbourg et Paris. Donc le collectif réclame notamment l'accès à l'avortement qui est un droit. Enfin, réaffirmons que l'accès à l'avortement est un droit, que l'avortement est un choix personnel. Mon corps m'appartient, je choisis ma vie. Et nous voulons notamment des moyens financiers pour les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification, une harmonisation des délais légaux pour avorter sur ceux des pays les plus progressistes et la dépénalisation de l'avortement, un choix dans la méthode utilisée pour avorter, la suppression de la double clause de conscience des professionnels de santé et des campagnes d'information positives sur le droit à l'avortement et que l'éducation à la sexualité soit prodiguée à toutes et à tous. Et donc le rendez-vous, donc mardi 28 septembre à 18h jusqu'à 20h, place Jean Massé, avec un code couleur, violet et vert, et avec une petite demande d'apporter des cintres pour participer à une exposition participative. Voilà, vous en saurez plus sur lui-même du rassemblement. Autre mobilisation qui aura lieu cette fois-ci, on en reparle, je pense que notre camarade en parlera aussi la semaine prochaine, mais on vous en parle brièvement, c'est la manif du 5 octobre qui partira à 11h, la manufacture des tabacs, donc manifestation interprofessionnelle et intersyndicale. Ces organisations syndicales, donc, elles exigent l'augmentation des salaires dans tous les secteurs, l'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage, qui doit normalement changer au 1er octobre, un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous et l'égalité professionnelle femmes-hommes, la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver et de créer des emplois, l'arrêt des licenciements et la fin des dérogations au code du travail et garanties collectives, un coup d'arrêt à la précarisation de l'emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme ambitieuse des bourses, la fin des fermetures des services, des suppressions d'emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et de la fonction publique et le renforcement de leurs moyens et bien évidemment le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. Donc le rendez-vous, on y reviendra sûrement la semaine prochaine, le 5 octobre prochain à 11h, manufacture des tabacs et c'est appelé par notamment CGT, FO, FSU, Solidaire, CNT, UNEF et CNT-SO. Un dernier petit rendez-vous qui nous concerne directement, c'est notre pot de rentrée. Soirée de rentrée, pot de rentrée, appelez ça comme vous le souhaitez. Ça se passera bien évidemment à la librairie.
Traditionnel.
Voilà, excusez-moi, monsieur traditionnel. Ça se passera bien évidemment à la librairie La Plume Noire, toujours située au 8 rue Diderot. Ce sera ce vendredi 24 septembre à partir de 18h. Ce sera l'occasion, ces petites soirées, de vous présenter le fonctionnement de la librairie, les différentes activités que nous projetons d'organiser, les liens avec l'Union communiste libertaire dont les membres autogèrent le lieu et dont nous faisons partie, la façon dont vous pouvez vous investir si vous le souhaitez, que ce soit à la librairie ou à l'UCL, et ou à l'UCL, ça peut être les deux. Ce sera aussi l'occasion pour nous toutes et tous de réaffirmer notre volonté de faire vivre ce lieu, malgré les attaques qu'on peut subir, espace qui se veut un espace de rencontre, de discussion, de débat, d'élaboration d'actions militantes, mais aussi et surtout de diffusion de livres et revues en opposition à la pensée dominante et en permettant la plus large diffusion d'ouvrages concernant le mouvement libertaire, son histoire, son idéologie, l'actualité des combats menés par les anarchistes, etc., etc., mais aussi des luttes antiracistes, antifascistes, les questions antisexistes, écologistes, syndicalistes et tout autre combat s'inscrivant dans la constitution d'un mouvement social émancipateur. Tout cela, bien évidemment, pour pas que ce soit trop pénible non plus, en partageant un verre et en écoutant un peu de musique. Vos enfants sont les bienvenus, puisqu'on va organiser un petit coin dans la librairie, un espace organisé au sein de la librairie, avec une petite sélection de coloriage antisexiste, quelques jeux à disposition, et puis avec des personnes de la librairie qui pourront du coup animer ce petit atelier. Comme ça, vous pouvez venir tranquillement avec vos enfants à partir de 18h, et puis voilà, vous savez que vous pouvez venir avec. Et bien évidemment, on rappelle du coup que la soirée se passera dans le respect des règles sanitaires, avec un port du masque à l'intérieur, masque et gel à disposition, et puis après, quand on est sur le trottoir à l'extérieur, bien évidemment, bon, on peut enlever son petit masque et puis boire un petit coup tranquillement. Voilà, histoire de respecter tous et toutes par rapport à cette situation sanitaire. Et j'en ai oublié un, et je m'excuse, je le finis par ça, un autre rendez-vous qui est un peu plus lointain, mais j'en parle aussi maintenant, on avait déjà parlé il y a 15 jours, c'était ce contre-sommet Afrique-France qui aura lieu à Montpellier du mercredi 6 au dimanche 6 octobre. Et ça y est, du coup, il y a le programme qui est sorti. Je vous invite du coup vraiment à aller voir ce qui se passe. Et si vous êtes par là-bas ou si il y a des voitures qui se font, n'hésitez pas à aller sur Montpellier là, sur ces 3-4 jours. Ça va vraiment être très intéressant. Ça commencera donc le mercredi 6 octobre, 20h, à la Carmagnole, avec une conférence avec Bernard Mounier. Les dérives de l'aide française au développement entre business et corruption. C'est animé par Attac. Le lendemain, le jeudi 7, à 20h, dans le même lieu, Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la pensée décoloniale. Le vendredi 8, toujours sur le même lieu, des ateliers animés par les associations de la Marche des Solidarités. 10h30, comment devient-on sans-papier ? À 14h, la Méditerranée militarisée. À 18h, violence policière sur les migrants. Et à 20h, une conférence avec Aziz Fall, lutte contre l'impunité, Sankara et panafricanisme, pardon, c'est animé par le comité Thomas Sankara 34. Le samedi 9 octobre, de nouveau une conférence sur le franc CFA, domination économique, et sur la présence militaire française en Afrique, ça se sera animé par Survie. Le samedi à 15h, une manifestation, départ parking des Arceaux pour dénoncer la France-Afrique et les dessous du sommet Afrique-France organisé par Macron et de la Fosse à Montpellier. Le soir, un concert, Emmanuel Job, ce sera au château de Grabbels. Et le dimanche, une balade décoloniale avec aussi une expo 10 panneaux sur le colonialisme présentée par la FASTI et les caricatures de Carac. Donc voilà, allez vraiment faire un tour là-bas si vous êtes dans le coin ou si vous projetez d'aller dans le sud sur ces jours-là, du mercredi 6 au dimanche 10 octobre ou au moins sur le week-end. Bon, y a pas mal d'animations, pas mal de conférences très intéressantes pour ce contre-sommet Afrique-France à Montpellier. Et donc voilà pour les annonces.
Bien, ben merci pour toutes ces annonces qui étaient absolument nécessaires à rappeler. Et on va passer une petite musique là pour... petite heure de musique, on va dire. C'est Léo Ferré qui nous interprète l'homme.
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings déjà voûtés par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne.
C'est l'homme.
Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon.
C'est l'homme.
Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour comprend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle.
C'est l'homme.
Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone. Le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne.
C'est l'homme.
Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge.
C'est l'homme.
Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette.
C'est l'homme.
L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges, qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme.
Héros, bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et après cette pause musicale, nous allons enchaîner avec une première page de lutte sociale.
Oui, merci pour le lancement. Donc, cette page coutumière, enfin du moins tous les mercredis, on y a droit. Les grèves, toujours, des luttes. Enfin bref, les gens sont en bagarre, comme en Île-de-France, avec cette fameuse colère, qui monte chez les conducteurs de bus gréviste qui concernait le transporteur de personnes dans l'urbain, c'est Transdev, pour encore le citer, la cité du moins, cette société, avec une grève démarrée le 2 septembre à Sénart en Seine-et-Marne. C'était le 6-09 aussi à Melun en Seine-et-Marne et le 7 septembre à Fontainebleau, toujours en Seine-et-Marne. Alors, présence des grévistes également, une grosse présence des grévistes à Saint-Ouen dans le département du 93, devant le conseil régional mobilité qui est en fait le donneur d'ordre pour les transports publics dans l'Île-de-France. Puis ensuite au siège de Transdev à Issy-les-Moulineaux pour faire les choses comme il faut. Donc une des causes de cette colère, c'est l'amplitude des horaires de travail qui augmente et aussi les rémunérations elles, qui stagnent et qui baissent. Outre une caisse de grève, les grévistes ont reçu quand même le soutien de syndicats comme celui de la RATP, des syndicats de la RATP, de la SNCF et de Sud Rail. La direction de l'Île-de-France Mobilité renvoie la responsabilité de ce conflit à Transdev. Alors c'est cool, le partenariat public-privé. Ah, il y a aussi, eu les flics, pour faire bonne mesure. Et branle-bas de combat, donc, chez les élus du Grand Paris Sud pour arrêter la grève. Les maires, les villes, des villes desservies et la présidente de l'Île-de-France, que je ne citerai pas, une certaine Madame Pécresse. Le champagne est en effervescence. Si on le secoue un petit peu, ça explose. Eh bien, c'est cette fois, c'est chez Piper. J'avais parlé de Mouette et Chandeau la semaine dernière, si vous vous rappelez, si vous étiez donc à l'écoute. Eh bien, cette fois, c'est chez Piper Hetzigek à Reims. C'était le 8 septembre. Et ce conflit datait quand même depuis mars. Ça devait péter, selon la CGT, qui sait faire sauter le bouchon pour les négociations salariales. Alors 1% était demandé, et 0,2% était proposé par Piper. Mais il n'y a pas que ça. La direction a mis en place une rationalisation, encore un mot très fréquent, très fréquemment. Fréquemment employé. Ouh là là, je m'emballe. Ces temps-ci, qui a tout l'air d'une réorganisation pour la CGT, ça veut dire des suppressions d'emplois, l'accroissement de la charge de travail pour ceux qui restent, et le chômage partiel, évidemment, non respecté selon l'accord. Il faut surveiller. Or, la reprise est nette depuis mars. Pas d'embauche en CDI et des heures supplémentaires, évidemment, à gogo. Les débrayages se font de demi-heure en demi-heure. À Grenoble, cette fois avec métro-vélo, c'est de la location de bicyclettes en service public, remis clé en main à Cycléo, gestionnaire privé. Alors, il y avait une grève le 9 septembre. Les salariés se plaignent des conditions de travail, se plaignent aussi de l'outillage. Cycléo, là-dessus, la direction ne répond pas. Les 26 employés ont donc décidé d'en appeler aux élus de Grenoble, Alpes Métropole, pour des moyens adéquats pour assurer un service public et ont reconduit la grève. 9000 vélos à gérer, grosse activité. Ils exigent donc ces grévistes 3 postes de plus. Alors c'est une première pour eux. Il y a quand même 1400 vélos qui étaient en rade. 22 agents grévistes sur 26. à Uzès, c'est dans le Gard, avec ce centre hospitalier du Mas Carréron, l'intersyndicale Sud Santé, la CGT FO et aussi donc les soignants hospitaliers, 700 personnes, une grève pour souligner le manque de moyens, le manque d'effectifs, une grande fatigue du personnel qui est en partie assigné et ne peut en partie rejoindre le piquet de grève qui était installé. Alors ils exigent dans leurs revendications des salaires décents, mieux que le Ségur de la santé, qui est là, évidemment, perd sa santé au fil des semaines. Vers chez nous, à Châtillon de Chalaronne, c'est dans l'Ain, avec une usine pharmaceutique Viatris. C'était le 9 septembre, avec une grève avec la CFDT, qui concerne les personnels de la production et administratifs. Et pour deux heures de grève, 100 grévistes sur 366 qui est l'effectif de cette société. Alors, motivation de cette grève, c'est le manque de motivation de la direction. Compliquer le dialogue, ça c'est l'arme préférée des responsables de la direction. L'effectif, les conditions de travail, le matériel, on y retrouve toujours les mêmes. On a l'impression de parler à un mur selon les commentaires CFDTistes. Alors, explication de la CFDT, c'est que Milan, le pharmacien Milan, s'est associé à Upjohn, qui est une branche de Pfizer, autre pharmacien dans le générique, pour la création de cette société Viatris, pour un plan de baisse des charges, 844 millions d'euros quand même à la clé, qui implique évidemment la disparition de 9000 emplois sur la planète. On peut dire encore là que les dés sont jetés. À Mulhouse, cette fois, c'était le 13 septembre, avec une grève chez Solea. C'est une compagnie de transport urbain à cette date et depuis dès début du mois. Alors, avec une manifestation devant le palais de justice, revalorisation, c'est les revendications, donc revalorisation des salaires et des conditions de travail à améliorer. Mais pas que, les grévistes sont dans la rue pour dénoncer les poursuites engagées par la direction à l'encontre des syndicats FO et de la CGT. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce que reprochent ces directions? Ce sont des préavis de grève jugés caducs. Alors, ça attaque vraiment sec du côté patronal. Négociation en stand-by à cette date. Solea est détenu par Transdev, encore eux, pour 87,8%, 10% par Mulhouse Alsace Agglomération et 1% par Trace, T-R-A-C-E, c'est une autre société. C'est le nom commercial de transport de Colmar et des environs, géré par le STUS, dont l'autorité est le CITREC. Oui, je m'amuse un petit peu avec ça, mais c'est très sérieux. Je vais vous expliquer après quand même, ça a besoin d'explication. Le CITREC, c'est le réseau pour les communes de Colmar, agglomération et autres. Alors, le Trace, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est le réseau de bus de Colmar, agglomération. Le STUS, c'est la société de transport urbain de Colmar et environ. Le CITREC, c'est le syndicat intercommunal de transport des environs de Colmar. J'espère que vous vous y retrouvez. Alors, auparavant, les transports urbains, c'était peut-être un peu plus simple quand même, étaient détenus par la régie municipale de Colmar, RMC, qui succédait aux usines municipales de Colmar, UMC. Voilà, je me suis un petit peu amusé avec ça, mais c'est très clair, c'est très net pour moi en tout cas, dans quel bain on peut nager des fois avec ces transports urbains. Ouais, voilà, clair. Pour cette première page de lutte.
Ok, on va enchaîner par deux petites choses avant de refaire une petite pause musicale. On voulait vous parler du site Rapport de Force. On espère que vous connaissez ce site d'information que vous pouvez trouver sur Internet, parce que du coup, ce site bat un peu de l'aile, et son avenir, du coup, est menacé. Donc, c'est un média qui se veut au plus proche des luttes sociales, car effectivement, si les personnes qui gèrent ce site d'information ne parviennent pas à faire grimper à 200 ou 250 le nombre d'abonnements volontaires d'ici l'été prochain, donc d'ici quelques mois, il est fort probable que l'aventure s'arrête là. Il faut donc, du coup, pour ce site, gagner autour de 150 nouveaux dons mensuels en 10 mois. Sachant qu'en réalité, pour rémunérer le travail réel des deux journalistes permanents de ce journal et payer quelques piges, il faudrait au moins 400 abonnements solidaires à 5 euros ou 200 à 10 euros. Vous faites les calculs si vous avez plein d'argent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si cela représente un nouvel abonné toutes les deux jours, il est maintenant possible de soutenir donc ce site Rapport de Force en bénéficiant d'une réduction d'impôt de 66% sur les dons, en tout cas pour celles et ceux ayant des revenus imposables. Depuis le 1er septembre, ce site est donc présent sur la plateforme dédiée aux médias indépendants en ligne et au pluralisme de l'information, J'aime l'info. Par conséquent, un don de 5 euros reviendrait à 1,70 après déduction et un don de 10 euros coûtera 3,40 €. Évidemment, vous pouvez donner plus, mais un soutien à 5 euros par mois devient très accessible. Ce site Rapport de Force, donc, il aura 5 ans en avril 2022. Depuis sa création, sans aucun moyen, il peine à se financer et avance avec une grande part de travail gratuit. Un sacrifice compensé par le plaisir de voir notre média grandir et son audience croître année après année, jusqu'à atteindre 1 million de lectrices et de lecteurs entre septembre 2019 et juillet 2020. Mais la COVID-19 est passée par là. Moins de lutte et un rétrécissement de la vie sociale et même parfois de la curiosité, de l'empathie à compter du second confinement ont eu raison du développement du site. Facebook a fait le reste. Une interdiction en octobre 2020 de Facebook, une sous-exposition depuis et la chute par deux ou trois du lectorat au cours de l'année scolaire 2020-2021. Au bricolage du quotidien par manque chronique d'argent s'est ajoutée la frustration de voir des sujets intéressants peiner à atteindre les lectrices et lecteurs habituels de Rapport de Force, une invisibilisation à répétition usante pour les nerfs et qui interroge. Donc les interrogent. Nos sujets sur les luttes sociales ne valent-ils pas mieux? En tant que journalistes, devrions-nous tenter de les faire vivre dans les médias plus lus? Peut-être, mais il est trop tôt pour y répondre en tout cas. Donc les journalistes n'ont pas décidé d'abandonner tout espoir que Rapport de Force puisse remonter la pente et se financer. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette aventure du seul journal créé par un ancien facteur devenu journaliste vaut encore la peine qu'on se donne du mal. Son parti pris de regarder les mobilisations sociales à hauteur du piquet de grève aussi. Alors jusqu'à l'été prochain, les deux journalistes du coup vont mouiller la chemise et le clavier pour que Rapport de Force survive aux difficultés. Ce serait un comble de jeter l'éponge alors que l'écosystème médiatique devient de plus en plus nauséabond, avec un Bolloré qui, après nous avoir infiché CNews, a repris Europe 1, pendant que l'extrême droite continue d'étendre sa toile avec une multitude de sites de, entre guillemets, réinformation à l'audience croissante. Donc voilà. Donc petit appel, on a fait un peu cette petite com aussi sur les réseaux sociaux de nos pages. On vous invite du coup déjà à aller voir ce site Rapport de Force. Et si vous avez...
Il est très bien fait, d'ailleurs.
Voilà, et si vous en avez envie... C'est plutôt intéressant. Il traite vraiment les sujets de lutte sociale au plus près parce que du coup ils sont sur place. Donc si vous pouvez après donner un petit peu la main, un petit don par-ci par-là pour pouvoir qu'ils puissent se financer, tout simplement vivre de ce métier là ce qui est pas évident à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, deuxième petite chose avant la petite pause musicale, c'était pour vous lire un petit communiqué fédéral de l'Union communiste libertaire qui réaffirme son soutien à le ZLN et leur voyage pour la vie autour du monde. C'est les apatistes du coup qui débarquent en Europe. On vous a déjà parlé un petit peu, je pense, avant l'été. On va refaire un petit point là-dessus. En pleine crise sociale mondiale, aggravée par la pandémie de coronavirus qui a entraîné dans de nombreux pays la démobilisation des mouvements sociaux, des organisations politiques et des collectifs, le zapatisme a lancé une nouvelle invitation aux luttes d'en bas et à gauche. L'UCL soutient pleinement cette initiative et s'y implique. Malgré la recrudescence du paramilitarisme dans les régions où le mouvement zapatiste dispute des territoires à l'État et aux entreprises transnationales, malgré une pandémie qui s'attaque aux plus démunis, sachant que la majorité des indigènes au Mexique sont dans une situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, malgré une campagne médiatique gouvernementale qui rappelle, à l'instar de certains anarchistes français, que le zapatisme est mort depuis des années et que le mouvement doit en prendre conscience pour cesser d'être une nuisance, malgré la catastrophe climatique mondiale, le ZLN a laissé entrevoir la réalisation du rêve de ces dernières années, la convergence des luttes. Contrairement aux groupes dogmatiques de différents courants de gauche, le zapatisme fait preuve de respect envers ceux qui partagent les mêmes ennemis. Depuis son soulèvement en 1994, le ZLN a été la cible d'attaques sur tous les fronts, fondées sur le racisme, la jalousie ou le sectarisme. Depuis 2014, les peuples zapatistes ont écarté le sous-commandant insurgé Marcos de la direction de le ZLN et l'ont rebaptisé Galeneao, en hommage à un militant zapatiste tué par des paramilitaires. Pour donner aux métis la mort tant désirée par beaucoup, le sous-commandant insurgé Moïse, 100% indigène, a été mis à la tête de l'organisation. Les attaques dirigées contre la personne de Marcos Galeano, malgré le changement connu de direction de l'armée zapatiste, cherchent à nier la capacité d'action des peuples indigènes zapatistes en désignant l'ancien leader comme le cerveau des succès et des échecs du mouvement. Il s'agit donc d'attaques racistes. Les zapatistes ont réussi dans la limite des possibilités du racisme d'État et malgré les limites de l'intelligentsia de gauche, européenne et latino-américaine, à tisser des liens avec des milliers de luttes sur l'ensemble du territoire européen. La délégation de près de 200 indigènes n'a pas encore touché la terre de l'autre côté de l'Atlantique, que des centaines d'événements ont déjà eu lieu, reliant des organisations, des collectifs et des individus dans des luttes telles que le droit au logement, les luttes féministes, antiracistes, anti-impérialistes, anticoloniales, etc. Ceux qui, depuis l'Europe, critiquent confortablement les stratégies du large mouvement indigène zapatiste articulé autour du CNISIG et de l'EZLN devraient se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'être anarchiste ou marxiste pour provoquer la chute du capitalisme, qu'il n'est pas nécessaire de suivre à la lettre des dogmes du 19e siècle en se fermant à toutes les expressions différentes ancrées dans leur réalité spécifique pour créer des contre-pouvoirs qui, attaquant le capitalisme dans ses moyens de production, de circulation et de consommation, donnent des coups mortels à ce système. L'expérience para-électorale du CNISIG en 2018, suite à la proposition de l'EZLN de présenter une candidature collective aux élections présidentielles, et à laquelle l'armée zapatiste elle-même n'a pas participé, a révélé tout le racisme de l'État et le mensonge de la représentation populaire à travers des élections. Cette stratégie a été critiquée par des positions anti-électorales qui, avec un aveuglement, ignorent les réussites de la campagne indigène. Renforcer les liens entre des luttes très diverses pour la défense du territoire et l'autodétermination des communautés indigènes, qui jusqu'alors étaient disjointes ou en dehors du CNI, et briser le siège médiatique qui enferme les luttes territoriales des peuples indigènes dans ces déserts de silence. Il convient de noter que la porte-parole Nahua, présentée comme une pré-candidate du CNI, n'a pas figuré sur le bulletin de vote. Il y a ceux qui n'ont pas honte de leur ignorance lorsqu'ils affirment que le ZLN est devenu une partie de la politique institutionnelle pour avoir fait appel à tous les moyens pour manifester leur soutien aux victimes des crimes d'État, y compris la participation à une sorte de plébiscite récent. Ces positions omettent le fait que près de 800 communautés indigènes du Chiapas ont tenu des assemblées communautaires, pas de vote et en dehors du système juridique, pour soutenir la demande de justice. Elles omettent le fait que beaucoup de ces communautés n'étaient même pas des communautés zapatistes, mais ont préféré cet exercice à l'exercice des urnes qui a eu lieu en parallèle. Là où les critiques voient une intégration dans le système, la réalité montre une désintégration du système étatique mexicain, tout en augmentant l'articulation des autonomies des communautés indigènes. Le voyage en Europe a laissé les communautés zapatistes dans le rouge. Les différentes campagnes de crowdfunding permettent à la géographie européenne de préparer la visite des communautés. La mesquinerie de ceux qui prétendent que la visite a un but commercial omet, parce qu'elle n'ignore pas que c'est un devoir moral des militantes et militants ayant une vision internationaliste de faire preuve de solidarité et que bien que pour l'instant les fonds soient collectés pour soutenir le voyage pour la vie, rien ne serait plus juste que de promouvoir également toute initiative qui renforcerait l'économie des communautés zapatistes contre l'assaut de l'État mexicain, de ses paramilitaires et des entreprises transnationales qui convoitent la jungle Lacandon. Dans leur position, les peuples zapatistes ont eux également été solidaires des luttes menées dans d'autres géographie. Et en tant qu'Union communiste libertaire, nous saluons l'initiative du Voyage pour la vie. Nous admirons l'effort que font des centaines de milliers d'indigènes zapatistes mettant leur vie en danger pour venir nous parler de leur lutte et écouter les nôtres, pour nous donner une belle raison de nous rencontrer entre militantes et militants en Europe et pour encourager la création d'un réseau de résistance et de rébellion globale qui mette fin au colonialisme, au patriarcat et au capitalisme. On vous tiendra bien évidemment au courant de ce qui peut se passer dans les semaines et mois à venir sur ce sujet-là et on continuera de parler d'un peu de ce qui se passe ailleurs, au Mexique ou dans d'autres pays, notamment en Amérique du Sud. Donc voilà pour cette page.
Bien, une petite musique donc annoncée. On va écouter à nouveau Léo Ferré qui va nous interpréter Le bateau espagnol.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Thank you.
Il est long le chemin d'Amérique. Qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. Ne t'en fais pas, mon ami. Puisque les voyages forment la jeunesse, n'en fais pas, mon ami, je vieillirai.
Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant. Porteur de blé nouveau avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant. S'écarteront, saluant la Madone en poupe par le col et d'une autre couleur.
Il est doux le chemin. Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les
Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et après cette deuxième page, cette deuxième pause musicale, pardon, nous allons passer à une deuxième page de lutte sociale.
Oui,
c'est parti.
Elle est préparée. Elle est préparée.
Let's go.
Et cette fois, on ira à Toulouse. Donc, c'était le 14 septembre avec 200 travailleurs de la santé et de l'action sociale en manif aux portes de l'ARS du coin, l'agence régionale de santé, n'est-ce pas ? Soutien solidaire donc aux collègues menacés de suspension de salaire dans ce secteur et dénoncer le peu d'intérêt qui est porté au personnel. Pas d'augmentation. Pas ou absence totale de Ségur de la santé, encore les, et ce qui va avec, pas d'augmentation d'effectifs. Idem à Pantin, aussi dans le 93, et c'était également le 14 septembre, en cette journée de mobilisation pour les employés, soignants, soignantes, etc., de la résidence APF Clotilde Lambourreau, qui dénonce donc les conditions de travail pour la prise en charge des personnes handicapées, exige plus de moyens, un effectif à la hauteur pour l'action sociale. Alors, il revendique 100 000 embauches au niveau national, à rien, des salaires décents et la prime à 1 000 euros dont la couleur se fait attendre. Alors, s'oppose à toute mesure de licenciement, de mise à pied et autres suspensions salariales. Ils sont également pour une vaccination consentie et éclairée. À Châteauroux, maintenant, c'est dans l'Indre, c'est pas la vie de château, donc à Châteauroux, au foyer, surtout au foyer d'urgence pour enfants, qui s'appelle Blanche de Fontars. Ce foyer est tellement occupé que les enfants, donc ceux-ci, dorment dans les bureaux, dans des couloirs, dû aux locaux insuffisants et vétustes. Le personnel encadrant n'est pas mieux loti. Il et elle se disent méprisés par leur tutelle. Des salaires proches du SMIC, point de prime Ségur de la santé ici. L'établissement est autonome et rattaché donc au département. Le personnel éducateur, éducatrice, soignants et soignantes sont en colère, qui ont manifesté donc à plusieurs reprises leurs revendications, dont le 15 septembre, pour dénoncer également les conditions indignes, une situation de maltraitance institutionnelle et pour des conditions de travail évidemment dignes et de meilleure rémunération, et également donc une augmentation de l'effectif, c'est-à-dire des embauches. À Bichem, c'est dans le Haut-Rhin, Mars attaque. Alors Mars, c'est la famille Mars. Les barres de chocolaté. Mars, c'est eux, c'est elles, et ça repart. Donc un Mars et ça repart. Ils restent pas les deux pieds dans le même sabot, hein, puisque ils ont balancé une annonce qui fait beaucoup moins rire. C'est que la famille Mars, donc à une famille à 127 milliards de dollars quand même, hein, un chiffre de 2018, veut supprimer 280 postes de travail, c'est-à-dire virer 280 salariés sur 350 du site alsacien, et ça a été annoncé donc ce 13 septembre. La CFDT exige un plan, un PSE, donc de sauvegarde de l'emploi, exemplaire d'ici 2022. Alors pourquoi ne pas être finalement payé en barres chocolatées ? Paraît-il que c'est ce qui met cette société un peu dans le rouge. Alors paraît-il qu'on ne mange pas assez de chewing-gum, qu'on ne mange pas assez de Mars, donc en Europe. La CFDT se fait des cheveux, évidemment. La moyenne d'âge dans cette entreprise en Alsace est de 49 ans sur l'usine. Il y a des présences quand même de 20 à 30 ans. Ça a été racheté en 2007 et depuis, il y a eu deux délocalisations. Il va falloir que je m'arrange moi pour écrire un petit peu plus simplement. Donc, deux délocalisations et ont suivi. On aurait dû peut-être à ce moment-là s'inquiéter un petit peu. Et puis pour terminer mes pages d'avant les vacances quand même, il m'en restait un petit peu sous le coude là, c'est à Besançon, hein, c'est Bezac pour les intimes, c'est dans le Doubs bien sûr, fin mai et début juin, 150 salariés du CHU devant l'hôpital Jean Mingeaux, il et elle se nomment les oubliés du Ségur de la santé, mis en place lors de la première vague de Covid, juste pour rappeler un petit peu cette actualité. Ils protestent et dénoncent notamment les augmentations salariales ratées du rendez-vous et les retards évidemment amenés. Des salariés exclus des mesures, hôpitaux, EHPAD, tout domaine donc de la santé sociale et médico-sociale. 300 personnes en Franche-Comté. La prochaine mobilisation, il y a eu une autre mobilisation un petit peu plus tard. Voilà. Et pour poursuivre donc avec le Ségur de la santé, pas la comtesse, hein, évidemment. Fallait que je le sorte celui-là, donc c'est simple, hein, c'est facile. Le 3, donc c'était au mois de juin, donc à Rennes, avec une mobilisation des techniciens et techniciennes de labo, préparateurs et préparatrices en pharmacie, diététiciens, diététiciennes, salariés donc du privé comme du public, ensemble, pour exiger plus que des rogatons, c'est-à-dire des miettes, mais au moins 183 euros sur le salaire, avec des débrayages importants en Bretagne. Le personnel de la santé, des personnels de la santé sont venus également de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères. 19 milliards pour rappeler d'investissement sur le système santé, 8,2 pour la revalorisation des métiers des établissements de santé, reconnaître l'engagement des personnels soignants. Là, c'est 15 000 recrutements pour l'hôpital public. Voilà, c'est ce qu'ils exigeaient.
Ouais, ce qu'il faut savoir aussi sur le Ségur de la Santé, c'est qu'il y a aussi d'autres branches de métiers qui réclament aussi ces sous-là, parce qu'ils ont aussi été personnel indispensable à la nation, comme disait ce cher président Macron. Tout le personnel médico-social, du coup, qui pour l'instant n'a rien du tout et qui se mobilise depuis quelques mois pour obtenir, comme pour le personnel de santé, mais on voit que tout le monde ne l'a pas eu encore, ces fameux 183 euros par mois bien mérités et qui rattraperaient quand même un petit peu de gel du salaire depuis des années et des années. On va vous parler d'une autre mobilisation maintenant pour finir l'émission. On a encore 10 bonnes minutes, c'est parfait. C'est par rapport aux aides à domicile. Du coup, qui vont se mobiliser aussi également demain, tout comme le personnel de l'éducation nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 400 000 aides à domicile qui dépendent de deux conventions collectives, service à la personne et branche de l'aide à domicile. Elles font le même métier, aident le même public, mais cette concurrence entre des entreprises privées et des associations arrange les employeurs. Ce sont toujours des profits que l'on fait sur leur dos. Dont les grands discours, bah aussi, hein, les disent indispensables. Oui, elles le sont. Le confinement et la pandémie Covid-19 l'ont démontré, mais pour quels résultats ? Temps partiel imposé, travail difficile et pénible, bas salaire, des frais de déplacement à leur charge et des temps de déplacement non payés. Toutes les aides à domicile connaissent plus ou moins ces situations. Cette grève donc du 23 septembre de demain est une étape pour mettre fin à ces injustices. Des hausses des salaires sont prévues dans la branche de l'aide à domicile. Elles doivent être gagnées dans les services à la personne. Elles doivent aussi être gagnées dans les services à la personne. Le secteur de l'aide à domicile doit sortir de la concurrence et de la logique du fric. Il doit répondre aux besoins des personnes aidées. Isolées dans leur travail, les aides à domicile peuvent construire leur solidarité en créant et en développant des syndicats, quel que soit leur employeur. Gagner ensemble une seule convention collective de haut niveau, l'union fait la force. La société doit cesser de considérer ces métiers comme exclusivement réservés aux femmes et donc mal payés et mal considérés. Il n'y a rien de naturel de devoir vivre dans une société où on doit faire du fric à tout prix. Ça, c'est le capitalisme, et s'unir avec les autres salariés pour construire une autre société vraiment solidaire pour répondre aux besoins de chacune et chacun, sans lui demander avant ce qu'il ou elle a dans son porte-monnaie, une société où les femmes ne seront plus considérées comme devant naturellement travailler dans des activités où l'on s'occupe des autres et de leur lieu de vie. Donc voilà, donc, j'ai pas de lieu pour les mobilisations de demain, je sais pas s'il y en a une sur Lyon, en tout cas il y en a une sur Paris, c'est sûr, sur les aides à domicile. Et on voulait finir cette petite émission avec voilà, une petite info sur si vous habitez sur Clermont-Ferrand. Alors, ce qu'il faut savoir sur Clermont-Ferrand, c'est qu'il va y avoir un concert folkish. Voilà, et vous me demandez bien ce que c'est un concert folkish, n'est-ce pas, chers camarades ?
Folkish.
Voilà, mais qu'est-ce donc ? Eh ben, on va vous le dire, voilà, parce que c'est en fait c'est un groupe qui est à la mode de la scène black metal folkish, et ben qui doit jouer son nouvel album du coup dans un bar d'un de leurs amis ce samedi 25 septembre à Clermont-Ferrand. Donc le petit article là, qui est tiré de Mediacoupe, que je vous conseille aussi, explique un petit peu quelle est donc cette mouvance black metal identitaire folklorique et quels sont ses liens avec le milieu néo-nazi. Donc ce groupe qui s'appelle Aorlac, qui veut dire Aurillac en patois occitan, ce groupe quant à lien vient promouvoir donc son nouvel album dans le bar d'un de leurs amis. Donc le bar, on vous le donne pour que vous évitiez d'y aller, c'est le Hops and Roll, qui est rue des Gras, dans le centre médiéval de la capitale auvergnate. Donc Aorlac semble être une valeur montante du black metal français. Il est reconnu pour son énergie notamment et a fait de nombreux concerts dans des festivals prestigieux tels que le Hellfest par exemple, et c'est bien dommage. Pourtant Aorlac n'est pas qu'un simple groupe de métal. Parmi ses membres, et on en a déjà parlé par le passé, vous allez peut-être vous en souvenir, certains furent pressentis pour intégrer Commando Peste Noire. Et ce groupe-là laisse peu de place au doute. Comme le revendique sans complexe son leader Ludovic Faure, dit Famine, dans ses interviews et dans ses chansons, l'une d'ailleurs porte d'ailleurs un titre tristement révélateur, Ariane Suprématie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Famine, Ludovic Faure, était un des leaders du bastion social sur Clermont-Ferrand avant qu'il se fasse dégager. Parmi les musiciens aussi de ce groupe, eh ben, il y a aussi un certain Florian Denis, pseudonyme Hardraus, batteur historique de Peste Noire. Donc le groupe Aorlac ne se définit pas comme nazi, ça passerait peut-être un peu mal quoi, mais il y a de multiples liens avec la mouvance qu'on appelle National Socialist Black Metal Folkish et cultive une identité se revendiquant de la culture occitane. De plus, Florian Denis est aussi une figure incontournable des mouvances néo-nazies en tant que batteur historique des groupes Lemovitch, Wolfengel, groupe de rock anticommuniste, RAC, des skinheads nationalistes et patriotes. Donc voilà pour un peu planter le décor de ce groupe-là, donc qui jouera Clermont-Ferrand, et on vous conseille de boycotter ce bar, voire de faire un peu plus. Et du coup, on va juste, l'article revient un petit peu sur qu'est-ce que signifie ce fameux folkish. Hein, tu te poses bien la question.
Folkish.
Hein. Voilà, folkish.
L'orthographe peut-être peut nous indiquer.
En fait, c'est une contraction des termes folk et volkish. Cette mouvance donc entend mêler musique folklorique, le métal et le mouvement folkish. Le folkish vient de la mouvance nationaliste ethnique allemande. Le Volkish Movement est un mouvement actif à la fin du 19e siècle. Il mêlait spiritualité païenne, mythologie, anti-monothéisme et antisémitisme. Il a été caractérisé par le racisme, le populisme, l'antisémitisme à partir des années 1900, influençant l'idéologie nazie. En effet, les nationalistes folkish considéraient généralement les juifs comme un peuple étranger, et pendant la période du Troisième Reich, Adolf Hitler et les nazis appliquaient une définition du Volk, du peuple, qui excluait les juifs, les roms, les témoins de Jéhovah, les homosexuels et les autres éléments étrangers vivant en Allemagne. Autre problématique pour le groupe à Orlac, leur label n'est autre que la maison de disques Les Acteurs de l'Ombre, qui organise des rassemblements tels que les feux de Beltane, sous le prétexte de folklore breton, mais durant lequel certains rituels avec des croix enflammées rappellent ceux du Ku Klux Klan. Des runes en bois dressées puis enflammées font, elles, référence au rituel des paganistes néo-nazis. Mais dans ce milieu nébuleux du national-socialiste black metal, difficile de faire admettre une position politique au groupe, qui se définissent d'ailleurs très souvent comme apolitiques, comme beaucoup de nazis ou de mouvements politiques liés à aucun parti, même s'ils partagent des idées d'extrême droite. Et du coup, là, l'auteur qui est plutôt bien renseigné sur ce type de musique et qui fait beaucoup d'articles pour expliquer un petit peu ce que c'est et pour dénoncer ces groupes qui sont des fois intégrés dans des festivals communs, hein, comme le Hellfest, on a vu. Et ben, ce national-socialiste black metal actuel et ses branches, qui peuvent être hitlériennes, occultes ou folkish, fait référence au nationalisme socialiste allemand, regroupant les idées fascistes, racistes, arianistes, suprémacistes blancs, etc. Ce courant s'est étendu dans les années 2000 avec l'arrivée de groupuscules néo-nazis. Les pères conceptuels de la musique folkish sont les meurtriers Christian Vikernes, également terroriste et créateur du jeu de rôle Odaliste, et Hendrik Mobus dans les années 90. Ils sont également considérés comme les pères du national-socialiste black metal. Idéologues païens, identitaires, ultranationalistes, patriotes, ils ont développé leur influence, même derrière les barreaux de leur prison en Norvège et en Allemagne. Ainsi, de nombreux groupes appartenant à cette mouvance se reconnaissent dans le folkish, à l'instar d'Aorlac. Les paroles ont souvent pour thème la nature, la guerre, le passé médiéval, la mythe et mythologique, dans une rhétorique romantique. La radicalité n'est pas omniprésente, voire absente des textes, mais demeure une grille de lecture identitaire et xénophobe. Les traditions ancestrales d'une communauté sont supérieures aux cultures extérieures, etc., etc. Le black metal connaît dès la fin des années 90 en France une radicalisation du genre appelée seconde vague, et à cette époque, certains en profitent pour faire émerger un courant de pensée surfant sur les idées antisémites et raciales. Déjà dans les pays nordiques en 94, lors de la première édition de leur album, Dark Throne fait mettre une inscription dans leur pochette « Black metal norvégien et arien ». La stratégie réside donc dans la diffusion idéologique métapolitique, c'est-à-dire hors du champ politique, apolitique de façade en gros. Peu de groupes revendiquent clairement leur appartenance et pourtant, ils participent activement à travers leur musique, leur référence à diffuser les idéaux néo-nazis. Concernant Orlac, leur réponse à nos questions reste évasive, comme le montre leur mail. Une stratégie bien connue du milieu, explique un spécialiste de la culture national-socialiste. Ils parlent toujours d'être apolitiques, que tout ça est de l'histoire ancienne, tout reste dans le flou et dans leur façon de se présenter. Et ils parviennent ainsi à recruter de plus en plus d'auditeurs qui se disent qu'après tout, la musique est bonne, peu importe ce que pensent les musiciens. Je crois que c'est justement ce piège qu'il faut éviter. Tu ne peux pas aller à ce genre de concert sans savoir ce que cela signifie. Donc un bar en plein centre de Clermont, tenu par un ex-peste noir et qui fait venir ce groupe-là. On vous rappelle l'adresse où il ne faut pas aller. Donc ce bar s'appelle le Hops and Roll, rue des Gras, qui vient d'être ouvert par un ancien musicien de peste noir. Si vous y mettez les pieds maintenant et que vous êtes au courant, vous pourrez plus dire « je ne savais pas ». Que c'était le cas. Donc voilà, on espère que ce bar fermera très vite et qu'il n'y aura personne à ce concert, voire qu'il sera boycotté, voire qu'il y aura autre chose. Voilà, voilou pour cette petite page. Et 20h58, on va pouvoir terminer tranquillement en rappelant les annonces de mobilisation.
On va peut-être pas avoir trop le temps parce qu'il y a une émission derrière.
Oui, mais vite fait, hein, juste deux minutes.
Oui, vite fait.
Une minute vite fait. On rappelle, manif des salariés de l'éducation nationale demain, 23h14, place Guichard. Il y a aussi les aides à domicile qui se mobilisent, même jour. Demain, on a notre pot de rentrée vendredi soir à partir de 18h à la librairie autogérée La Plume Noire, au 8 rue Diderot. On vous invite à venir, donc il y aura de quoi boire, de quoi manger un petit coup. Oui. Il y aura un petit coin pour les enfants aussi, si vous souhaitez venir avec vos enfants. Donc voilà, et le dernier petit rappel, et des autres choses seront rappelées mercredi prochain, c'est mardi 28 à 18h, place Jean Massé, un rassemblement pour le droit à l'IVG en France, en Europe et partout dans le monde. Et voilà, ben, voilà, on a fait le tour.
Tout est dit, presque. Et ben, on va vous laisser pour ce soir et vous dire à mercredi prochain, évidemment, pour une nouvelle émission. Et on vous laisse avec l'émission qui suit directement Idées Noires, bah c'est À l'Est l'Éden. Voilà, tout de suite, l'animatrice est là et on va vous laisser un moment avec notre générique donc, de fin et de début, en fait. Voilà, c'est parti, bonne soirée
à vous
et bonne semaine. Tout de suite avec l'émission.